France Musique.
Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine de France Musique du mercredi. C'est donc du live, enfin du concert. On dit dans la langue qu'on veut, qu'on aura, comme tous les mercredis de cette saison. Avec les artistes du jour, ils sont venus à 5, mais ils ne joueront pas ensemble. Nous aurons Emmanuel Bertrand au violoncelle et Pascal Moyel au piano, Amel Brem-Jelloul qui chantera aux côtés de Nicolas Jouve. Et tout de suite, et pour ouvrir, un improvisateur, quelqu'un que vous lui dites, vous faites de la musique, il fait de la musique tout de suite, comme ça, paf, 3 minutes. C'est ce qu'on lui a demandé, il n'y a qu'à demander. Carole Beffa. C'était Carole Beffa qui jouait pour nous en ouverture d'émission, ce qui aurait pu être, je sais pas, une toccata, un prélude pour orgue, transcrit au piano de Jean-Sébastien Bach, quelque chose comme ça. Hein. Bonjour Carole.
Bonjour Lionel.
Ça m'épate toujours, hein, parce que vous me dites avant les émissions à chaque fois, oui, bon, tout combien tu veux, 3 minutes, 4 minutes, etc. Bon, bah, on fait en fonction. Et puis de temps en temps, petit coup d'œil sur la pendule.
Quand même, c'est vrai.
Pour savoir ce qu'on en est. Quand on commence comme ça, vous allez faire du bac à quel moment avant de vous mettre sur le piano, là?
Ça peut être, je voulais dire, à quel moment de la journée?
Non, à quel moment là, avant de jouer? Est-ce que c'est 10 secondes avant ou une heure?
Je me suis dit, je sais pas, en entendant la brièveté de la Montaron, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, quelque chose qui serait, la simplicité de Bach et en même temps une espèce de contrepoint. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis décidé.
D'accord. C'est toujours ça avec les improvisateurs, vous leur demandez comment ils font, parce que ça vous semble impossible, et puis lui c'est simple, il se met au piano, puis on joue du Bach, on joue du Chopin, on joue ce que vous voulez, quoi. Enfin c'est simple, et puis de temps en temps, c'est pas tout seul que ça se fait l'impro. Avec Raphaël Imbert, vous avez sorti un disque il y a quelques semaines qui s'appelle Libre, qui est paru chez Jazz Village. Alors c'est plutôt, en effet on va dire plutôt du jazz, Raphaël Imbert est un saxophoniste de jazz bien sûr, mais très tourné vers le répertoire classique, comme vous êtes tourné évidemment, de tradition classique vers d'autres répertoires aussi. Donc ça a été une sorte de rencontre entre vous deux sur des musiques qui sont de vous, qui sont de lui, qui sont de l'impro, ça se fait comment?
Alors c'est de l'improvisation totale, souvent sur les thèmes proposés par le public, parce qu'une partie de l'enregistrement s'est fait live. Dans ce cas, le public peut proposer des choses, ça a été le cas je crois avec Match Point, que finalement on n'a pas conservé, mais d'autres moments, Game Over, alors on voit ce que ça peut vous suggérer. Il y a des improvisations aussi dans le style de Bach, alors un Bach un tout petit peu romanticisé. C'est toujours difficile en plus d'improviser à deux dans un style très tonal et très précis historiquement comme celui de Bach. Mais voilà, c'est exclusivement de l'improvisation et on n'avait pas de grille auparavant, ce qui est souvent le cas des jazzmen. C'était un peu cette idée qu'on voulait avoir, ce qui explique aussi le titre de l'album Libre.
Est-ce qu'on est plus libre d'ailleurs quand on fait de l'impro, ou est-ce qu'on est plus libre lorsqu'on fait la musique des autres, ou on suit la partition? C'est pas évident, parce qu'il y a parfois des sortes de passages obligés, même pour les improvisateurs, qui font que vous êtes peut-être libre en apparence, mais enfermé aussi dans un certain moule.
C'est tout à fait vrai. J'ai tendance à considérer qu'on est plus libre en improvisant, et ce serait pas mal que l'enseignement, plus généralement dans les conservatoires ou ailleurs, prenne plus en compte l'improvisation, qui est, je crois, une épreuve, une école de la liberté. Maintenant, il y a toujours ce risque de s'enfermer dans un moule. Là, effectivement, c'était du Bach, mais c'était évidemment pas aussi bien que Bach, très loin de là. Est-ce que ça peut avoir un intérêt de pasticher des auteurs comme on le fait de temps en temps à deux? Là, l'idée, c'est qu'évidemment, comme on a très souvent un suiveur et un leader, avec des rôles qui peuvent s'intervertir entre les deux. Si on a l'impression que quelqu'un va se fourvoyer dans une voie qui serait peut-être une impasse, l'autre peut l'en tirer et le conduire ailleurs. Ce qui fait que certaines improvisations sont assez proches effectivement du répertoire classique mais très visité, d'autres proches des musiques dites improvisées, certaines sont carrément bruitistes, Raphaël s'amuse parfois à jouer avec ses deux saxophones en même temps, donc voilà, il y a un peu de tout.
C'est donc Libre, ce disque de Raphaël Imbert et Carole Beffa chez Jazz Village. Vous reviendrez tout à l'heure, Carole, pour commenter autrement les artistes qui vont jouer après vous. Et ben voici justement Emmanuel Bertrand qui est au violoncelle et Pascal Amoyel qui s'est installé au piano. Ils vont nous jouer, c'est pas la première fois qu'on l'a cette saison dans le magazine live, du Onslow. Ben oui, parce qu'ils le joueront aussi dans quelques jours, cette sonate pour violoncelle qu'ils nous découvrent tous les deux. Emmanuel Bertrand au violoncelle, Pascal Amoyel au piano dans ce deuxième mouvement andante de la première sonate de l'opus 16 de Onslow. C'est paru en 1818, je le signale parce qu'on va en causer dans un instant. Bonjour Pascal Amoyel.
Bonjour.
Et on va causer surtout d'Onslow, Beethoven. J'ai entendu du Beethoven partout, ne serait-ce que la sonate en clair de lune avec ces espèces de fioritures au-dessus complètement désespérées, très chromatiques. Ça ressemble beaucoup, hein.
Oui, d'ailleurs, Berlioz, n'hésitez pas à l'appeler le Beethoven français. Lorsqu'il est mort, il dit voilà, c'est le seul qui représente la musique instrumentale maintenant de manière noble, c'est Onslow. Alors, on reconnaît aussi un peu de Schubert quand même aussi. Je trouve que on peut imaginer que Schubert, notamment dans ses dernières sonates, les grands mouvements lents, se soit inspiré de cette sonate.
Vous avez joué d'autres pièces de Onslow avec Emmanuel ou c'est la seule que vous avez pour l'instant votre répertoire?
C'est la première. Il existe trois sonates que nous avons aussi jouées un petit peu ensemble, mais on n'a jamais encore interprété en concert.
Alors justement, en concert, eh bien, ce sera pour cette sonate-là dans les concerts du Palazzetto Bruzzani, pas à Venise, mais il y a une déclinaison parisienne au Théâtre des Bouffes du Nord. Le 1er juin, je compte bien, ce sera lundi que vous jouerez ceci. Auparavant, le concert aura été donné, sans voir causer dans un instant, avec Emmanuel au Festival de Beauvais. Très belle musique à découvrir là. Alors je la salue, Emmanuel Bertrand, bonjour.
Bonjour Lionel, bonjour à tous.
Le Festival de Beauvais, donc, disais-je, qui a commencé lui lundi, qui se poursuivra jusqu'à dimanche, qui est votre festival à vous, puisque vous en êtes directrice artistique depuis combien de temps maintenant?
Alors c'est la 4e édition pour ma part, mais le festival existe lui depuis plus de 20 ans, il y a une très grande tradition du violoncelle à Beauvais.
Voilà, c'est ça, un festival de violoncelle seul, enfin un violoncelle avec ensemble, avec orchestre, machin, avec une sorte de fil rouge cette année, si j'ai bien compris, autour du concerto de Schumann.
Oui, absolument, le concerto de Schumann qu'on a pu entendre déjà en répétition avec orchestre pour préparer la masterclass, avec l'orchestre philharmonique du département de l'Oise. J'ai pour ma part tenu la partie de violoncelle solo pour faire répéter cet orchestre en vue de la masterclass d'Anne Gastinel qui aura lieu samedi matin, et Anne Gastinel interprétera elle-même le concerto avec l'Orchestre Symphonique des Flandres dimanche pour le concert de clôture.
Alors vous faites bien de dire qu'il n'y a pas que des concerts, parce que c'est l'une des particularités de Beauvais, c'est pas le seul festival bien sûr, mais là, tout de même, on est attaché vraiment à avoir beaucoup de choses autour pour faire connaître l'instrument et la musique en général. Il y aura une exposition luthier, si j'ai bien vu, il y aura des expositions de lithographie, des ateliers, des concerts, de la pédagogie, il ne s'agit pas que simplement de présenter la musique avec cet objet, comme on sait, frontal et compliqué qu'est le concert.
Absolument, les concerts sont bien sûr des temps forts de la programmation, mais l'idée est vraiment de déployer le violoncelle sous toutes ses formes et surtout de l'utiliser comme un prétexte au lien, au partage, à la rencontre, voilà, avec une effervescence. Les générations se croisent, partagent la scène ensemble dans nos ateliers pédagogiques. Il se passe beaucoup de choses et surtout ça nous conforte à chaque instant dans l'idée que la musique est quelque chose de vivant qui se partage à chaque heure du jour, et voilà, ça fait du bien en fait.
Alors je vous laisse vous réinstaller tous les deux pour la suite de votre programme. Ce sera Chopin. Bon, là, on avait une pièce que vous avez jouée jamais en concert, sinon pour nous, je crois que ce sera la première fois ici, hein, en situation de public, le Onslow. Mais le Chopin, Pascal Amoyel, la sonate, vous l'avez faite combien de fois avec Emmanuel?
Oh, quelques fois. C'est difficile à estimer.
C'est en centaines, là, non?
Non, quand même pas. Non, c'est une œuvre qu'on aime beaucoup jouer. Effectivement, comme nous venons de l'enregistrer, c'était aussi, on a souhaité vraiment la jouer à la fois ici, puis bien sûr au Bouffes du Nord et au Festival de Beauvais. C'est une œuvre, voilà, très, très, c'est pas forcément le Chopin, bien que cette, le troisième mouvement qu'on va entendre et voilà, dans l'improvisation, comme disait Carole tout à l'heure, voilà, un des plus grands improvisateurs avec Franz Liszt, et on l'entend vraiment dans cette sonate ou dans ce mouvement aussi, où on a l'impression qu'à chaque moment, une note d'un des deux protagonistes va ouvrir une route totalement insoupçonnée.
Le Largo, donc, de cette sonate de Frédéric Chopin par Pascal Amoyel et Emmanuel Bertrand. Merci et bravo à Pascal Amoyel, Emmanuel Bertrand qui nous jouait cette merveille, le largo de la sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin, puisqu'il vient de se lever, parce que oui, il va retourner au piano lui aussi, Carole Beffa. Juste un mot sur ce que nous racontait tout à l'heure Pascal à propos de cette œuvre, de ce largo en particulier de Chopin. C'est vrai que Chopin improvisait beaucoup, comme vous le faites vous aujourd'hui. À l'époque, on va dire, c'était pas exceptionnel, c'était une tradition. Mais il disait lui-même qu'il avait beaucoup de mal après, enfin, c'était Georges Sand qui racontait ça, à porter ça en partition, parce qu'il y avait l'improvisation, il y avait ce qu'il notait de ça, et puis tout le travail par-dessus.
Oui, en plus, dans son cas, si je ne m'abuse, il était assez traqueur, donc il s'est assez vite arrêté de se produire en public, mais il avait, en plus, dit-il, effectivement, des difficultés à accoucher sur le papier ce qui venait sur le moment, et ce qui fait que même ce que l'on prend pour le Chopin le plus rhapsodique, le plus improvisé, est en général le résultat d'élaboration assez poussée.
Et le Chopin le plus travaillé, certainement. Alors, quelques mots encore avec Emmanuel et Pascal. Donc, on a parlé de ce festival de Beauvais qui se poursuit jusqu'à dimanche, à Beauvais donc, bien sûr, de ce concert au Bouffe du Nord le 1er juin. Vous ferez tout un tas de trucs du genre Ronslow, 500, enfin des machins Palazzetto, Bruzane, et Chopin qui sera mis évidemment au milieu. Puis il y a votre dernier disque, Charmonia Mundi, paru il y a peu autour de la sonate pour violoncelle, mais surtout autour d'une année, Pascal, qui est l'année 1846. Pourquoi cette année-là?
Parce que c'est une année, d'abord, où il a produit de grands, grands chefs-d'œuvre, et puis aussi parce que, vous savez, dans les dernières années de Chopin, en fait, cette année 46, c'est l'année où justement il quitte Georges Sand, il quitte la terre du Berry, Nohant. C'est une année d'arrachement à un être, à une terre, et puis aussi finalement à la vie, parce qu'il a la fin de sa vie. Et souvent, les compositeurs composent des œuvres à la fois extrêmement denses, extrêmement complexes, comme cette sonate ou comme je sais pas, la Barcarolle, la Polonaise Fantaisie, et puis des œuvres tout droit sorties de l'esprit d'un jeune homme de 19 ans. Je pense à la valse dite du petit chien, qui composait aussi la même année, enfin des œuvres comme ça. Et en fait, c'est comme un petit peu Schubert, à la fin de sa vie, qui compose des grandes sonates de piano, par exemple, qui sont une sorte de contemplation, de méditation totale. Et puis en même temps, le pâtre sur le rocher, qui est quelque chose comme ça, qui est d'une légèreté confondante. Et alors, c'est un peu la mise en perspective de ces deux facettes, et même facettes finalement, d'un compositeur que nous avons souhaité mettre sur cet enregistrement.
Enfin, l'œuvre importante, c'est quand même la sonate pour violoncelle, hein, on est d'accord, hein, Emmanuel Arnaud, on est très d'accord là-dessus, qui est très équilibrée, comme c'est curieux, parce qu'on pourrait se dire c'est Chopin, donc il écrit d'abord pour le piano, mais en réalité c'est très équilibré pour les deux instruments, non?
Oui, et en même temps c'est une autre manière de traiter l'instrument précisément, parce que c'est vraiment une écriture pianistique malgré tout. Chopin a si peu écrit pour d'autres instruments que le piano. Et donc il faut oublier beaucoup de choses pour s'approprier ce langage-là, qui est vraiment très, très à part dans la littérature pour violoncelle. En fait c'est l'enjeu pour chacun des compositeurs, bien sûr, mais nécessairement pour Chopin, notamment la manière d'ornementer, de placer les petites notes sur les temps, enfin des choses très précises de cet ordre-là. Et puis on a tant de traditions et tant de références dans cette sonate-là. Et c'est aussi ce qui est passionnant pour nous de mettre en regard des œuvres comme la sonate d'Onslow, qui sort comme ça, qui surgit du passé et pour laquelle nous n'avons vraiment aucune référence, aucune tradition, aucun héritage. Et c'est lui rendre justice en même temps que de la remettre en lumière. Ça rejoint aussi ce que disait Carole Beffa tout à l'heure de cette liberté, de cette quête de liberté toujours du musicien dans l'interprétation. Alors pour ma part, c'est dans l'interprétation, ça n'est pas dans l'improvisation, de partir d'une page blanche. Évidemment, pour Chopin, ça n'est pas la même chose. Et en même temps, on doit absorber d'autres choses que les simples références de la sonate pour violoncelle et piano, qui sont tout simplement la littérature pour piano.
Harmonia Mundi, donc, pour ce disque-là. Juste un mot, Pascal, 30 secondes, vous serez au Festival d'Avignon au mois de juillet pendant 23 représentations même.
23 représentations d'affilée pour le spectacle Pianiste aux 50 doigts que j'ai fait au Ranelagh pendant 4 mois l'an dernier. C'est pour moi un très très grand plaisir, un très grand honneur et même surprise de continuer à donner ce spectacle qui au départ avait été juste conçu pour le Festival de la Chaise-Dieu et qui encore 5 ans plus tard est encore donné. Donc ce sera au Théâtre du Balcon tous les soirs au mois de juillet.
Se retrouver pour 23 représentations à faire la même chose, ça c'est rare en musique, hein. En théâtre c'est tous les jours, mais en musique c'est très rare. Merci à tous les deux, je vous laisse filer parce qu'il y a une répétition à Beauvais derrière. Carole Beffa, vous, je vous laisse commenter tout ce qu'on vient de dire, je sais pas ce qu'il choisira, Chopin, Onslow, Emmanuel Bertrand, il fait ce qu'il veut, en revanche c'est le temps, il veut du temps, il l'aura, 3 minutes. Carole Beffa qui commentait pour nous ce mouvement de sonate, le largo de la sonate pour violoncelle de Frédéric Chopin, un peu matinée de Rachmaninov, par moment de Keith Jarrett, de machin, de Carole Beffa aussi, hein, de plein de choses. Hein, voilà. Merci à vous, toujours admirable ce genre de choses. Un mot aussi de votre d'un autre disque, Carole, qui sort en même temps quasiment, enfin un peu après, celui dont on parlait tout à l'heure, consacré à l'improvisation, cette fois des pièces bien écrites de vous, qui sont rassemblées entre autres par l'ensemble Contraste et par deux complices, on peut dire comme ça, Johan Fargeau et Arnaud Torrette, qui ont vraiment défendu vos œuvres, les ont jouées depuis des années. C'est très important aussi d'avoir des interprètes qui vous, quand on est compositeur, qui vous défendent, qui vous jouent.
Qui vous défendent, qui vous jouent et qui vous conseillent, parce que je suis loin de pouvoir connaître aussi bien que évidemment les instruments de l'orchestre. L'un d'entre eux est aussi chef d'orchestre, Johan Fargeau, qui est pianiste. L'autre est un as du violon et de l'alto. Je ne suis pas instrumentiste à cordes, donc je leur demande volontiers des conseils, des trucs, et voilà, c'est important.
Alors, des concertos, enfin, forme concerto, on va dire, ça évolue beaucoup cette idée-là, parce qu'en fait, le concerto en trois mouvements, il n'existe plus en tant que tel, quoi qu'on peut le pratiquer toujours. En revanche, des formes un petit peu hybrides, inventant autour de cela.
Oui, c'est des petits concertos, concertino, je n'aime pas trop le nom concertino, mais Emmanuel Cesson, harpiste, qui figure aussi sur ce CD, m'avait suggéré d'appeler Concertstück, éventuellement le petit concerto pour harpe qui est là, deux concertos pour piano, un concerto plus long en revanche pour alto et cordes, avec Arnaud Torrette à l'alto. Parce que en fait, je voulais regrouper des pièces pour orchestre à cordes, ou avec orchestre à cordes, et voilà, c'est à peu près toute la production que j'avais, en plus d'un tango, mais qui est plus un hommage, un pastiche de Piazzolla, qu'une pièce personnelle, et que je n'ai pas voulu faire figurer sur ce CD.
Les pièces écrites, donc cette fois, de Carole Beffa, on retrouvera ça sur cet album intitulé Into the Dark, enfin disque, ça paraît chez Aparté, ces jours-ci, avec entre autres les membres de l'ensemble Le Contraste. Il est 12h35.
France Musique.
Vous écoutez le magazine en live, en direct depuis le studio 107 de la Maison de Radio France. Vous pouvez nous retrouver tous les mercredis jusqu'à la fin de la saison et la dernière partie de notre programme, quoiqu'elle sera encore commentée tout à l'heure par Carole Beffa qui vient de s'asseoir juste à côté, qui regarde Amel Brahim-Djelloul et Nicolas Jouve pour voir ce qu'ils vont nous faire, pour voir surtout ce qu'il en fera lui après. Pas mal de découvertes quand même dans ce que vous nous proposez comme programme tous les deux aujourd'hui. Ressus Guridi pour commencer, deux mélodies, Amel Brahim-Djelloul et Nicolas Jouve. Bravo à Amel Brengelou, les Nicolas Jouve pour ces deux mélodies superbes de ce Ressus Guridi que je ne connais pas. On en dira un mot dans un instant. Amel, bonjour.
Bonjour.
Depuis le temps que je vous le réclame, ce disque qu'on en parle, je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, dire quand est-ce qu'elle nous fait un récital, Amel Brengelou. Ben, ça y est, c'est fait.
Ça y est, c'est fait, avec un peu de retard, effectivement, dû à des problèmes techniques et financiers pour sortir un disque. Ça devient difficile.
Ah oui, mais il y a aussi que vous l'avez mûri pas mal, celui-là. Hein.
Ah, mûri pas mal, mais après, on a été un petit peu retardé un petit peu dans l'exécution. Mais voilà, il y a eu beaucoup de récitals autour de ce programme, mûrement réfléchi et beaucoup donné. Ouais.
L'idée générale, c'est celle de la musique populaire, des liens entre la musique savante et le populaire. Et d'ailleurs, le titre général est populaire au pluriel. C'est paru donc chez Loquentia, les compositeurs Anne, Collet, Brahms, Canteloube, Ravel, beaucoup de choses. Et vous voulez, je crois qu'il y a des découvertes aussi là-dedans. Hein.
Bah, Guridi, on a quand même pris un paquet de partitions comme ça avec Nicolas et on est allé un peu au défrichage et c'est vrai qu'on voulait pas retomber dans trop de choses qui ont déjà été surtout pour graver un disque c'est toujours plus intéressant de trouver des choses assez peu données ou pas du tout données. C'est un petit peu le cas de Collet, Respighi et Guridi surtout.
Qu'on vient d'entendre là justement. Bonjour Nicolas Jouve.
Bonjour.
L'écriture de piano est magnifique aussi chez ce compositeur-là qu'on découvre. Hein.
Voilà, c'est aussi ce qui nous a séduit dans ce compositeur. Alors j'avoue que moi non plus, je ne le connaissais pas avant de me pencher, enfin qu'on concocte ce programme. Et c'est vrai qu'on a été charmé par la richesse harmonique. Et puis on voulait sortir des classiques, des Fayas, quand on pense mélodie populaire espagnole. Voilà. Donc on a trouvé Guridi. On a découvert Guridi, qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup en France. Et pour les mélodies espagnoles, on a aussi concocté un petit... On a trouvé découvert Henri Collet, qui est aussi un compositeur français qui compose de la musique espagnole plus vraie que nature. Et on est assez fiers de ça.
Cette découverte d'exotisme en quelque sorte. Autorino Respighi, c'est l'une des parties de votre programme discographique que vous avez choisi aujourd'hui pour notre public de mélodies encore d'Autorino Respighi, celui des Pins de Rome, hein, de toutes ces musiques orchestrales qui pètent dans tous les sens. Dans cette pièce, Scozzesi, c'est quoi ça, Scozzesi? C'est que ça vient d'où, Amel?
Écossais.
Ah, écossais, d'accord, très bien. Donc il y a de l'Espagne, de l'Écosse, enfin, tout ce que vous voulez, quoi, c'est européen.
In the Highlands, my heart is not here. My heart. And was not he a rogue?
Amel Brendjelloul et Nicolas Jouve dans ces deux mélodies écossaises de Torino Respighi. Qu'est-ce que vous racontez dans la dernière? Parce que ça m'avait l'air bien gai. J'ai entendu un chevalier qui passe ça un moment, Amel.
C'est le sonneur de Dandy, de Cornemuse, qui passe par là. Alors, il chante et il joue un tas de chansons différentes avec générosité. Alors, il est inépuisable, ce sonneur de Dandy.
Ce qui est marrant, Nicolas Joux, c'est que, évidemment, la chanteuse fait la mélodie là-dedans, qui est à peu près toujours la même, même si les paroles changent. En fait, l'invention de Torino Respighi, parce qu'évidemment, c'est pas lui qui compose la mélodie, elle est écossaise. L'invention, elle est au piano.
Voilà, c'est la cornemuse, le piano transformé en cornemuse. Voilà, ouais. C'est ça.
Oui, beaucoup d'autres choses aussi, hein. On se rend compte qu'il savait écrire pour cet instrument, hein, Respighi.
C'est ça, mais c'est ça qui nous a intéressé aussi. C'est la rencontre entre ces mélodies populaires qui sont, souvent faciles à retenir, qui ont traversé les âges, et ces compositeurs qui ont enrichi l'accompagnement, voilà, et qui en ont fait quelque chose. Je trouve, enfin voilà, ça nous a vraiment intéressé.
Qui ont fait du populaire, du savant en quelque sorte. Hein. Ouais. C'est un peu l'idée. Populaire, c'est donc le titre général de ce récital d'Amel Brendjelloul qui paraît chez Eloquentia. Il y a une couverture, vous êtes en star de cinéma mais devant une dodoche.
Ben oui, c'est tout l'aspect populaire jusqu'au bout. On a essayé de jouer le jeu et on a eu pas mal d'idées proposées et initiatives personnelles aussi. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment amusé. On s'est dit, c'est vraiment quelque chose d'assez personnel. Rien ne nous a été imposé. Nous avons eu la chance aussi de travailler avec Laurence M, donc maison de disques, et elle-même qui a enregistré, qui nous a accompagnés artistiquement aussi, et qui nous a vraiment accompagnés jusqu'au bout, et même dans notre proposition un peu originale, on va dire, avec le côté un peu star, populaire, enfin voilà. Ça peut prêter à confusion de regarder regarder la pochette sans regarder le contenu, mais enfin voilà, au moins ça attire l'attention.
Absolument, et puis le pianiste apparaît en chauffeur, hein. Enfin chauffeur de dodoche, c'est un métier presque à part entière. Les concerts, il y en aura aussi pour ce disque-là, 3 juin et 4 juin au Château Mercier, où ça crèche ça, Château Mercier, Amel ?
C'est en Suisse, c'est à côté de Sierre, voilà.
D'accord, très bien, on pourra vous voir là. Et puis, il faudra aller au théâtre d'Alger, hein, pour vous retrouver encore. Alors, je sais plus quand, j'ai plus noté la date. Pour quel programme? Pour le même aussi?
Toujours populaire, voilà. On va aller quand même présenter ça au public algérois, parce que c'est quand même au Théâtre National d'Alger. Voilà, le 9 juin.
Quand est-ce qu'on vous retrouve sur scène en France? Il faudra aller à Limoges pour la saison prochaine.
Limoges, avant quand même en Ile-de-France, pour une création avec Zad Moultara, compositeur d'origine libanaise.
Excellent d'ailleurs.
Oui, ça sera autour de la poésie de Adonis. Et ça sera en arabe, donc un rêve encore qui s'exauce.
Oui, parce que vous avez déjà chanté en arabe beaucoup, non?
En arabe, mais de la musique traditionnelle, pas de la musique actuelle, et avec un compositeur qui maîtrise parfaitement la langue arabe et la composition, c'est quand même assez rare. Et en plus, avec le talent de Zad, voilà.
Il faut dire qu'il en maîtrise un paquet de langues, hein, Zad Moultaka. C'est d'ailleurs un des jeux de sa musique, finalement, de travailler sur les langues et de faire dialoguer entre elles.
Tout à fait. Et j'avais découvert la musique de Zad Moultaka en chantant une création de lui il y a 2 ans, qui s'appelait Neb Anr, qui parlait d'une déesse égyptienne dans une langue imaginée par Zad Moultara, inspirée de l'ancien égyptien. Et donc c'était avec des phonèmes quand même arabes. Et je me suis dit, bon, allez, si c'est un moyen de le rencontrer, j'y vais. Donc j'ai plongé, j'ai interprété cette pièce avec bande son et soprane. Et ça a donné lieu à la rencontre avec Zad et à des projets futurs.
Ben très bien, on sera attentif à ces projets. Merci à tous les deux. Que va voir penser de tout ça? Pas notre public, hein, mais Carole Beffa, alors ça je ne sais pas. Tiens, il est en train de prendre la partition, là, de regarder quelque chose dedans. Ben oui, il vient à peine de les saisir, il ouvre une page au hasard. Je ne sais pas ce qu'il va en faire. Carole Beffa, alors la question temps, je vous presse un peu, Carole, hein, je suis désolé. Hein. Vous avez vu la pendule? 57, ça ira? Thank you. À la seconde près, il est plus souvent à l'heure que moi, cet homme-là. Hein. Comment transformer une mélodie écossaise de Respighi en une sorte de rhapsodie rabisante à la fin? C'est une sorte de résumé de tout ce qu'on venait d'avoir avant. Et c'était donc Carole Beffa qui était au piano pour nous. On le retrouvera, Carole, en concert dimanche à Caen, à l'Hôtel de Ville, avec un accompagnement de lectures improvisées. Pas les lectures, le piano, bien évidemment. Et puis le 1er juin à Rouen, ce sera lundi. Et enfin, mercredi prochain, le 3 juin, à la Chapelle d'Apt avec votre compère Raphaël Imbert. Cette émission a été préparée par Raphaël Dor, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui au 107 Cédric Chatelus, Dali Aya, Fabien Capel, Ben Kachmarek. Je souhaite à tous une très bonne journée et remercie bien sûr notre public qui est venu aujourd'hui.